الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد. Nous avons commencé à parler la semaine dernière des contradictions à l'islam. Nous avons expliqué que les actes de mécréance n'étaient pas forcément l'athéisme, que le musulman devait savoir qu'il y avait des actes et des paroles qu'il pouvait prononcer quotidiennement à de nombreuses reprises sans s'en rendre compte, et ce sont des paroles de mécréance. Il pouvait pratiquer des actes et sans s'en rendre compte, ce sont des actes de mécréance. Malgré que l'on revendique l'islam et la foi, on peut commettre des actes qui sont considérés par l'islam comme des actes de mécréance et prononcer des phrases qui sont considérées comme des paroles de mécréance. Donc il est très important pour nous de connaître ces contradictions à l'islam. Nous avons dit qu'il y en avait 10, nous en avons énuméré 7, il nous reste à en voir 3. La huitième contradiction à l'islam, c'est le fait d'aider le non-musulman à vaincre le musulman. Le fait de contribuer à rendre victorieux un non-musulman contre un musulman, cela contredit l'islam et contredit la foi. Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui les prend, c'est-à-dire les non-musulmans, et celui qui les prend pour alliés, donc sous-entendu pour vaincre les non-musulmans, et celui qui les prend pour alliés devient un des leurs, et Allah ne guide pas les injustes. Ensuite, la neuvième contradiction à l'islam, c'est le fait de penser ou de croire qu'un individu, par sa science ou par sa raison ou par son degré de piété, peut se permettre de sortir de la voie du prophète Mohammed sallam et se tracer une nouvelle voie. Comme certains innovateurs dans certaines sectes font. Ils disent que quelqu'un qui est devenu savant, il peut se permettre d'arrêter de prier ou de choisir une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela aussi contredit l'islam. Car Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui se choisit comme une religion, une autre religion que celle de l'islam, jamais rien ne sera accepté de lui, et il fera partie dans le monde de l'au-delà, il fera partie des grands perdants. Ensuite, la dixième et dernière contradiction à l'islam, c'est le fait de se détourner, de s'opposer à cette religion et ses enseignements. Le fait de refuser, de s'entêter à accepter cette religion ou les enseignements de cette religion ou les décrets de cette religion. Le fait de refuser d'apprendre sa religion. Le fait de refuser d'appliquer les décrets et les enseignements de cette religion. Et la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit, et qui est plus injuste que ceux auprès de qui on rappelle les signes de leur Seigneur, mais ils s'en détournent et ils s'y opposent. Vraiment, nous châtirons les criminels. Mes frères, mes sœurs, ici, après avoir énuméré les contradictions à l'islam, il nous est important de mettre le doigt sur des règles de base que les savants nous ont données concernant le fait de rendre quelqu'un mécréant. Le fait de rendre quelqu'un mécréant, nous venons de dire qu'il y a des actes qui sont considérés par l'islam comme des actes de mécréance. Nous venons de dire qu'il y a des paroles qui sont considérées comme des paroles de mécréance. Mais la question ici que nous allons nous poser, est-ce que n'importe qui commet un acte de mécréance est forcément mécréant? Non. La réponse à cette question, c'est non. Ce n'est pas parce qu'il a commis un péché, ou ce n'est pas parce qu'il a prononcé une parole de mécréance, ou dit, ou appliqué une mécréance, qu'il est forcément mécréant. Il a certes commis une mécréance, on ne peut pas douter dans cela, puisque c'est une parole de mécréance ou un acte de mécréance, mais pour le rendre mécréant, il faut absolument s'assurer et se garantir qu'il y a toutes les conditions qui sont remplies. Il y a ici trois choses que les savants nous donnent. Ils nous disent, avant de rendre quelqu'un mécréant, il faut s'assurer de trois choses. La première, s'assurer du fait que la parole que cet individu, ce musulman, a dit, que l'acte que ce musulman a dit, il y a des preuves claires dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que c'est le fait de faire cet acte ou dire cette parole font sortir de l'islam et font de cet individu un non-musulman. Il faut tout d'abord, la première chose, qu'il y ait cette preuve flagrante. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a beaucoup de membres de notre communauté qui sont tombés dans ce piège-là, qui sont tombés dans les deux excès. Il y en a certains qui tombent dans le laxisme et qui disent que tout le monde est musulman et tout le monde est beau. Et il y en a d'autres qui tombent dans l'autre excès et qui disent que n'importe quel acte ou n'importe quelle phrase qui est prononcée de n'importe qui ou n'importe quel péché rendra forcément l'individu mécréant. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une secte qui est apparu, qu'on appelle les Khawarij. Les savants les ont appelés les Khawarij, littéralement ceux qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui sont sortis du groupe des musulmans. Ils sont sortis du groupe des compagnons et ils ont accusé le groupe de Ali et les compagnons qui étaient autour de Ali de mécréants. Et ils ont accusé également le groupe de Muawiyah et les compagnons qui étaient autour de lui de mécréants. Pourquoi ? Juste pour des paroles qu'ils entendaient ou juste pour des interprétations qu'eux, ils ont fait de leurs paroles. Donc, première chose parmi les trois choses dont nous devons nous assurer avant de rendre quelqu'un mécréant, tout d'abord s'assurer et se garantir qu'il y a une preuve claire et flagrante dans le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet acte fait sortir l'individu de l'islam. Et bien sûr, le fait de s'assurer de ces textes-là n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui est donné à ceux qui ont un minimum de science. Donc déjà ici, on comprend que n'importe qui ne peut pas rendre n'importe qui mécréant. La deuxième chose, c'est s'assurer que toutes les conditions sont remplies pour que cet individu soit rendu et jugé mécréant. Il y a des conditions pour qu'il soit jugé mécréant. Et la troisième chose, c'est ce que les savants ont appelé s'assurer qu'il n'y a plus aucun mawani'. Les mawani', ce sont les causes d'empêchement. Quelque chose qui nous empêche de le rendre mécréant. On le traduira ici par les circonstances atténuantes. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour qu'il ait dit cette parole ou qu'il ait fait cet acte ? Nous avons besoin ici de savoir quelles sont les conditions et quelles sont les circonstances atténuantes. Les conditions, les savants en ont énuméré beaucoup. Mais la plus importante et la principale, c'est le fait de s'assurer que l'individu qui a commis un acte de mécréance ou qui a dit une parole de mécréance, est-ce qu'il l'a dit en connaissance de cause ? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait que c'est une parole de mécréance et qu'en disant cette parole, on sort de l'islam ? Est-ce qu'il le sait ? S'assurer qu'il le sait. S'assurer qu'il a eu la preuve que cela fait sortir de l'islam et s'assurer qu'il a été convaincu par cette preuve et malgré cela, il s'entête dans cette mécréance. Car Allah Azza wa Jal nous dit: et quiconque fait scission, quiconque s'oppose au messager d'Allah après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, sa destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset: et quiconque s'oppose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa religion après que la vérité lui soit venue, après qu'on lui ait amené les preuves et qu'il ait été convaincu par cette preuve, mais c'est juste par entêtement qu'il continue à s'y opposer. Ensuite, nous avons dit la troisième chose, il y a des causes d'empêchement, des circonstances atténuantes. Quelles sont-elles ? Par exemple, le fait que l'individu pratiquera une mécréance ou dira une parole de mécréance sans vouloir cette mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire sans vouloir cette mécréance ? Par exemple, qu'il y soit contraint, qu'il ait été torturé ou persécuté pour qu'il applique une mécréance, pour qu'il commette une mécréance, pour qu'il dise une mécréance. Comme cela est arrivé à certains compagnons, radiyallahu anhum, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ammar ibn Yasir. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant et il a dit, j'ai, sous la torture, j'ai insulté la religion d'Allah et j'ai insulté son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que ton cœur est plein de foi ? Il lui a dit, comment se trouve ton cœur ? Il lui a dit, mon cœur est plein de foi. Il lui a dit, alors, s'ils reviennent et te torturent, tu peux reprononcer ces paroles. Parce qu'il est sous la contrainte. Il n'est pas satisfait des paroles qu'il dit. Il n'est pas satisfait de cet acte qu'il fait. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont la colère d'Allah. Donc ceux qui ont mécru, ceux qui ont renié Allah, ceux qui ont délibérément renié Allah sans contrainte et que leur cœur est plein de mécréance, c'est ceux-là qui ont la colère d'Allah Azza wa Jal. Mes frères, mes sœurs, on ne rentrera pas plus en détail dans ce sujet qui est fil haqiqa vaste. Nous avons ramené ici, pendant ce prêche et le prêche dernier, deux choses importantes. Une chose que nous devons prendre pour nous de manière individuelle et une deuxième chose que nous devons prendre pour les autres. La première chose dont nous avons parlé, ce sont les contradictions à l'islam. Le fait que faire certains actes peuvent rendre mécréants. Nous devons être durs avec nous-mêmes à propos de ces choses-là. Nous ne devons pas nous permettre, en aucun cas, d'appliquer un de ces actes ou de penser une de ces pensées-là que nous avons énumérées. Ça, c'est pour nous. La deuxième chose dont nous venons de parler, c'est le fait de ne pas faciliter et rendre à tout va quelqu'un de mécréant. Ça, c'est pour les autres. Nous sommes durs envers nous-mêmes pour ne pas tomber dans la mécréance, mais lorsque nous voyons une erreur de notre frère, nous regardons est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes. Nous lui cherchons des excuses. Nous essayons de le ramener vers le droit chemin et nous n'allons pas directement l'accuser de mécréance. Et les savants de notre communauté sont un grand modèle pour nous dans ce chemin-là. Ils étaient très équilibrés et ils conseillaient et recommandaient à la communauté de ne pas tomber dans ce piège-là. Ils disaient: il ne faut pas à tout va rendre mécréant le musulman, ou n'importe comment dire d'un musulman qu'il est un innovateur juste parce qu'il a commis une innovation, ou n'importe comment dire d'un musulman qu'il est un pervers ou un hypocrite. Car la personne qui l'accuse, premièrement, il ne sait pas lui comment il est. Il ne sait pas si lui, il commet peut-être des actes beaucoup plus graves que les siens. Et aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de jeunes de notre communauté tombent dans ce piège-là et ils accusent les autres membres de leur communauté, les autres membres de leur communauté d'égarement, d'innovation, de mécréance, etc. Écoutons ce que nos savants nous disent à ce sujet. Tout d'abord, l'imam Tahawi nous dit: nous n'avons en aucun cas le droit de rendre mécréant quelqu'un qui prie vers la même direction que nous. C'est-à-dire quelqu'un qui revendique l'islam. Nous n'avons en aucun cas le droit de rendre mécréant quelqu'un qui prie vers la même direction que nous, juste pour un péché qu'il a commis, sans qu'il l'ait rendu licite. Il faut, pour qu'il soit rendu mécréant, qu'il commette ce péché, qu'il dit il n'y a aucun mal, c'est bien, on peut faire ce péché, etc. L'imam al-Ghazali, quant à lui, nous dit: ce qu'il faut pour chaque musulman, c'est qu'il prenne garde de ne pas rendre mécréant. Et à chaque fois qu'il trouve une circonstance atténuante ou un moyen de ne pas rendre son frère mécréant, il prend cette raison et cette circonstance atténuante. Quant au grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit: les savants de la communauté et les gens de la sunna, ils n'ont jamais rendu mécréants les gens, les innovateurs qui les contredisaient. Les savants de la communauté étaient amenés à discuter, à polémiquer, à débattre avec, entre guillemets, les savants des innovateurs qui se revendiquaient de l'islam. Et les savants de notre communauté, comme Ibn Taymiyyah nous le dit, jamais ils n'ont rendu mécréants ceux qui les contredisaient, quand bien même ils étaient des gens de l'innovation. Et quand bien même, il nous dit Ibn Taymiyyah, quand bien même celui qui le contredit lui-même le rend mécréant, les savants ne le rendaient pas mécréant, car ils savaient que le rendre mécréant est un décret religieux et on ne peut le rendre qu'après que toutes les conditions soient remplies, comme celles que nous avons citées. Et il nous donne un exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit: ce n'est pas parce que ton frère t'a traité et t'a jugé mécréant que tu dois le juger mécréant. Ce n'est pas parce que ton frère t'a jugé pervers que tu dois le juger pervers. Ce n'est pas parce que ton frère t'a jugé innovateur ou hypocrite que tu dois le juger innovateur et hypocrite. Pourquoi? Il nous dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, imagine donc que quelqu'un ment à ton sujet ou qu'il vient pratiquer le crime de l'adultère avec ton épouse. Est-ce que tu vas toi aussi aller mentir à son sujet ou tu vas toi aussi aller commettre le crime de la fornication avec son épouse? Tu ne vas pas le faire. Parce que c'est un crime. Si cela est pour lui, c'est aussi un crime pour toi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à ce sujet dans l'authentique de Muslim, il nous a dit: celui qui accuse son frère de mécréant, l'une de ces deux personnes est vraiment un mécréant. C'est-à-dire que si tu as accusé ton frère de mécréant, s'il l'est vraiment, il l'est. Mais si tu l'as accusé à tort, en l'ayant accusé, toi aussi, tu deviens, c'est toi qui deviens mécréant. Le savant Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous disait: il faut pour chaque musulman qui veut une recommandation pour lui-même qu'il ne parle jamais dans ces choses-là. C'est-à-dire qu'il ne rende jamais n'importe qui et n'importe comment mécréant, sauf s'il a la science et sauf s'il a les preuves flagrantes. Et il faut que chaque musulman prenne garde de ne pas sortir les musulmans de ne pas faire sortir les musulmans de l'islam juste avec sa compréhension ou sa raison. Car le fait de sortir un individu de l'islam ou le fait de faire rentrer un individu dans l'islam fait partie des choses grandioses de cette religion. C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui est réservé aux gens de science. Et il termine par dire, Mohammed ibn Abdel Wahhab: et la plupart des gens qui se sont égarés, ils se sont égarés dans ce piège-là, le fait de rendre n'importe comment les gens mécréants, ou plutôt les musulmans mécréants. Bien sûr, ici, nous parlons de ceux qui sont musulman à la base. Quant à celui qui n'est pas musulman à la base et qui c'est lui qui revendique sa non-croyance et qu'il revendique son athéisme, nous le jugeons comme lui, il se revendique lui-même. Quant à celui qui se revendique musulman, c'est de lui que nous parlons lorsqu'il faut à chaque fois s'assurer et se garantir avant de le rendre mécréant que toutes les conditions soient remplies. Quand nous entendons ces paroles de savants, nous comprenons que c'est le chemin, le droit chemin pour ne pas tomber dans les pièges et dans les égarements. Nous devons donc prendre comme modèle nos savants. Nous devons donc, pour comprendre notre religion et apprendre notre religion, nous attacher au livre d'Allah Azza wa Jal, à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons radiallahu anhum et de ceux qui sont venus après eux qui les ont suivis dans le bien. Allahumma aslih shababana. Allahumma aslih ummatana. Allahumma aslih ummatana. اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدهم اللهم اجعلهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اصلح نساءنا وبناتنا واخواتنا اللهم اجعلهن متسترات متحجبات اللهم اصلح اباءنا وامهاتنا اللهم اجمع شملنا اللهم وحد كلمتنا اللهم وحد صفنا اللهم وحد صفنا يا رب العالمين اللهم وحد صفنا اللهم احينا على سنة نبينا وامتنا على ملة حبيبنا اللهم احينا وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة يا رب العالمين اللهم ركز في قلوبنا عقيدة التوحيد اللهم ركز في قلوبنا عقيدة التوحيد اللهم ركز في أعمالنا وفي حياتنا عقيدة التوحيد اللهم بعد بيننا وبين الشركيات اللهم بعد بيننا اللهم بعد بيننا وبين الابتداعيات اللهم بعد بيننا وبين الكفريات اللهم بعد بيننا وبين نواقض الإسلام كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم بعد شبابنا وبعد بين شبابنا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم أجدادنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في قبورنا اللهم اجعلنا جوار سيدنا اللهم اجعلنا في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأيضا هناك أخ يطلب منا الدعاء لأبيه مريض في المستشفى أصيب بمرض خطير نسأل الله أن يعافيه فبعد أن ينطق أخوانا بالشهادة سوف ندعو لهما وندعو لهذا المريض وندعو لجميع المسلمين. أولا نرحب بالأخوين اللذان دخلا مسجدنا وهما في الحقيقة مسلمان منذ عهد لكن أراد أن يسلم علانية وأن ينطق بشهادتي الحق أمامنا اليوم فنرحب بهم ونتشرف بحضورهما ونستقبلهما بكل فرح وبكل سرور. Donc on va faire inchallah la conversion officielle et juste une chose c'est qu'après la conversion on va faire aussi des invocations pour quelqu'un qui les demande pour son père qui est malade. Donc on accueille nos frères et on est honoré de les accueillir ici dans notre mosquée. Ça fait un moment qu'ils sont musulmans, mais ils ont voulu aujourd'hui officialiser, entre guillemets, cette conversion. Alhamdulillah, il n'y a que du bien. فهذا دليل أيضا أيها الإخوة أن هذا الدين هو دين الحق. هذا الدين هو دين الحق. عندما نطلب من الإنسان أن ينطق بالشهادة بتوحيد الله عز وجل ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول أنا أعتقد بهذا الأمر منذ زمن بعيد لكن لم أكن أعرف الإسلام حتى أعتنق بهذا الدين. Ces conversions, on va dire régulières, nous montrent aussi une chose. Si elles peuvent nous montrer une chose, c'est que c'est la religion de vérité. Car chaque être humain, Allah Azza wa Jalla, il l'a créé avec la pureté du tawhid, de l'unicité d'Allah. Il a en lui, quand bien même il a été éduqué dans l'incroyance, quand il a été éduqué loin de l'islam, dans lui, quelque part, il a encore cette pureté, et il faut juste aller la chercher. Et la preuve, c'est que la plupart des gens qui se convertissent, ils nous disent quoi ? Ils nous disent, quand on m'a expliqué le message de l'islam, j'ai dit, au fond de moi, c'est ça en quoi je crois. Mais je ne savais pas que c'était l'islam qui appelait à cette vérité-là. Vous allez répéter après moi, Inch'Allah ? Ash-hadou.
Ash-hadou.
Allah.
Allah.
Ilaha.
Alayha.
Ilaha.
Ilaha.
Illallah.
Illallah.
Wa ashadu.
Anna.
Muhammadan. Rasulullah.
Rasulullah.
La tusaffiqu. Ashadu. Allah. Ilaha.
Illallah.
Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. At-takbir. Ayyuha al-ikhwa, هناك فائدة على التصفيق. يعني هناك اختلاف بين العلماء. هل يجوز للمسلم أن يصفق أو لا يصفق؟ Je vais juste faire un petit rappel par rapport à l'applaudissement. Est-ce qu'il est permis aux musulmans d'applaudir ou pas ? Les savants ont divergé sur cette question. Il y a des savants qui nous disent que c'est une façon de ressembler aux idolâtres, parce que les idolâtres, leur façon d'adorer les divinités, c'est qu'ils applaudissaient. Donc ces savants-là, ils nous disent que c'est formellement interdit. D'autres nous disent que si c'est juste une manière de montrer son émerveillement, etc., on peut. Mais même ces savants-là qui l'autorisent, ils disent dans la mosquée, il ne faut pas le faire. On peut le faire ailleurs. Comme dans, s'il y a des conférences, etc. Certains savants l'autorisent, mais dans la mosquée, non. Wallahu a'lam. Félicitez vos frères, inshallah. Allahumma hadha ar-rajul alladhi usiba bi maradin khatir. Allahumma inna nas'aluka an tashfiyahu wa tu'afih. Allahumma shfihi wa afih. Allahumma rabban nas, adhhib al-ba's. Ishfi anta ash-shafi. La shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfihi. اللهم اشفه واشف مرضانا اللهم اشفه واشف مرضانا اللهم اشفه واشف مرضانا اللهم اشفه واشف مرضانا اللهم اهدنا واهد اخوانا اللذان اعتنق الاسلام اللهم ارنا الصراط المستقيم اللهم علمنا ديننا اللهم علمنا ديننا اللهم ركز في قلوبنا لا اله الا الله اللهم ركز في قلوبنا لا اله الا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.